Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, bienvenue pour une nouvelle émission au fil des pages où, une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas parler d'un livre en particulier, mais de documents et d'ouvrages que l'on peut trouver aux archives de l'Académie des sciences, car il faut le savoir, il existe depuis 1880 de façon autonome les archives de l'Académie des sciences. On y trouve des trésors et pour en parler avec nous et nous raconter l'histoire de ces archives, Florence Greff, conservateur des archives, qui vient de nous rejoindre dans notre studio. Florence Greff, bonjour.
Bonjour.
Avec vous, nous parlerons des grandes personnalités du XVIIIe siècle telles que Réaumur, Lacondamine, Maupertuis. Nous évoquerons les fonds scientifiques que vous conservez sur Lavoisier, Ampère, entre autres. Et nous nous arrêterons aussi quelques instants sur les archives et la technologie Internet qui permet d'offrir un accès élargi à ces archives. Mais avant d'aborder tous ces thèmes, il est utile de faire un retour en arrière et de nous pencher sur l'histoire de l'Académie des sciences et des archives de l'Académie des sciences. Alors je crois savoir que tout commence en 1699.
En fait, l'Académie, l'ancienne Académie a été fondée en 1666, mais on a très peu de renseignements sur ces papiers et sur l'organisation de ces archives. Le règlement de l'Académie des sciences de 1699 organise le travail de l'Académie qui jusque-là avait fonctionné pendant une trentaine d'années sans statut, en organisant elle-même ses devoirs, ses missions. Et ce règlement va déterminer le travail pendant tout le XVIIIe siècle. Et pour parler des archives, sans utiliser le mot même, il emploie les mots registres, traités, titres et papiers. Et notamment, un article de ce règlement précise que le secrétaire, l'une des fonctions essentielles du secrétaire, devenu secrétaire perpétuel, est de tenir le registre, c'est-à-dire donner trace de l'activité de l'Académie.
Ce sont des rapports lors des séances hebdomadaires, par exemple.
Tenir le registre, ça veut dire le registre de procès-verbal des réunions que l'Académie effectue. Dès le début, l'Académie se réunissait deux fois par semaine, le mercredi et le samedi, et avait décidé que tous les membres, qu'ils soient botanistes, médecins, mathématiciens, assistaient aux travaux les uns et des autres. C'est une particularité de la mission du secrétaire perpétuel de réunir des notes pour garder trace des travaux de l'Académie. Et c'est une curiosité parce que, par contre, les livres, les meubles, les instruments et toutes les machines que l'Académie examine ou a entre ses mains sont sous la garde du trésorier de l'Académie.
Alors, il faut savoir effectivement que aujourd'hui, les académiciens viennent pour faire des communications, mais à l'époque, il y avait des expériences et des outils étaient utilisés au sein de cette Académie des sciences.
Parce que l'Académie, à partir de 1799, exerce la fonction de laboratoire et d'expérience. Alors qu'au XIXe siècle, sa mission changera d'allure et encore plus au XXe siècle où maintenant les recherches se font dans les laboratoires ou dans les grandes institutions comme l'INRA, l'INSERM et d'autres. Et maintenant, si vous voulez, l'Académie couronne les recherches, les reconnaît, alors que...
Il n'y a plus l'activité même.
Voilà, alors qu'au début, les expériences se faisaient... Bon, je dois corriger un peu cette affirmation en disant que souvent les académiciens étaient également membres de grandes institutions comme à l'Observatoire pour les astronomes ou travaillaient au Jardin du Roi, devenu Jardin des Plantes pour les botanistes, ou alors ils enseignaient au Collège de France. Donc ils avaient plusieurs activités et disons plusieurs emplacements pour exercer leur...
Alors en 1699, donc, ce décret est ordonné pour tenir des registres, mais alors ensuite il faut les stocker quelque part, ces registres?
Oui, on a très peu de certitudes sur la conservation systématique des archives. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des témoignages du souci des académiciens pour préserver des papiers de certains de leurs confrères. À titre d'exemple, lorsque Réaumur meurt en 1757, il lègue tous ces documents à l'Académie. Et le secrétaire perpétuel les confie à deux membres, à l'abbé Nollet et à Buffon. Et on doit dire qu'il y a eu des pillages et des désordres dans ces papiers. Il faudra un certain temps avant qu'on essaye de les réorganiser. Et il faut aussi rappeler une autre caractéristique de l'Ancien Régime, c'est qu'on confond les papiers personnels facilement et les papiers que l'on produit en fonction de ses missions, de ses fonctions. Pour nous, c'est une institution royale, donc c'est des papiers dit public. Mais les gens ne font pas le partage. Et ceci, ça va durer aussi tout le long du 19e siècle.
Je crois savoir qu'à cette époque-là, l'Académie n'est pas encore au Collège des Quatre Nations, elle est encore au Louvre.
Tout à fait. Au début, l'Académie s'était réunie dans la bibliothèque du roi, donc vous voyez, rue Richelieu. Puis, à partir de 1799, devenue officiellement Académie royale, agréée par le roi, qui crée par le règlement 20 pensionnaires, c'est-à-dire des académiciens qui reçoivent une pension du roi et qui sont donc officiellement payés sur les finances royales. Donc, ils obtiennent, peu après le règlement date de janvier, ils obtiennent dès avril des pièces au Louvre. Un chercheur, Madame Camille Frémontier, a fait un article, donc toute personne intéressée peut demander aux archives et on donnera les références, sur l'emplacement au Louvre de cette académie. Il y a une pièce pour les réunions hebdomadaires, une pièce où il y a les livres. Et bien sûr, il y a des problèmes pour les instruments et le matériel, car quelquefois, on en reçoit, et puis quelquefois, il y en a trop, donc on les déménage soit au jardin du roi, soit à l'observatoire. Enfin, il y a des allées et venues. Et l'Académie est très gênée quand elle reçoit des legs d'instruments.
Aux archives de l'Académie des sciences, on y trouve les documents, les ouvrages. Est-ce qu'on retrouve aussi aujourd'hui les outils des académiciens ?
Non, l'Académie avait en effet pour mission non seulement de travailler sur des théories, des concepts, mais aussi d'examiner toutes les inventions, les innovations que différents particuliers ou même des savants leur proposaient. Donc l'Académie est supprimée sous la Révolution en 1793 comme étant
une institution royale en fait.
Trop proche du roi, trop proche des autorités. Donc elle est supprimée comme toutes les sociétés savantes. Mais tous ces instruments sont sous ces caisses et on n'y touche pas. Par contre, lorsqu'il est décidé du déplacement, l'Institut est créé en 1795. Il est composé des anciennes académies, mais pas sous ce nom. Elles sont appelées classes de l'Institut. Il y a d'abord trois classes en 1795. La première classe des sciences physiques et mathématiques, la deuxième classe des sciences morales et politiques et la troisième classe littérature et beaux-arts. Puis en 1803, comme la classe des sciences morales et politiques déplaît,
elle est supprimée
et on remplace par quatre classes, les sciences physiques et mathématiques, la deuxième classe langue et littérature française, la troisième histoire et littérature ancienne et la quatrième celle des beaux-arts. Et en même temps, en 1803, est réorganisée l'Académie. Et il est aussi décidé que tous les instruments vont être répartis auprès d'institutions qui ont plus vocation.
Comme l'Observatoire royal, par exemple.
Voilà, l'Observatoire de Paris. Comme les arts et métiers qui ont été créés
le CNAM,
voilà, par l'abbé Grégoire. Donc, c'est réparti, si bien que lorsque, en 1805, un décret décide que l'Institut se réunira dans l'ancien Collège des Quatre Nations, le déménagement est effectivement fait une année après les travaux de restauration et d'adaptation.
Donc, en 1806, l'Académie des sciences, avec les autres classes, se retrouve ici au Collège des Quatre Nations et commence à faire venir avec eux tous ces documents, ces registres qu'ils ont déjà conservés, mis à part donc ces fameux outils qui ont été éparpillés, mais de manière bien orientée.
Oui, puisqu'il y a des inventaires. Ils ne sont pas très détaillés, mais on a des inventaires. Et je dois dire, je fais une digression et après je reviendrai sur l'Institut au début du 19e siècle. Ultérieurement, en 1863 ou 1864, il y a eu à nouveau une nouvelle répartition des instruments et à nouveau, l'Académie a décidé officiellement de redonner aux arts et métiers un complément d'instruments qu'ils avaient récolté et rassemblé. D'ailleurs, le Conservatoire des arts et métiers a une liste bien détaillée, avec même, il est dit, il est écrit noir sur blanc, instrument de Lavoisier, instrument de ceci, de cela.
Alors, si nous revenions un petit peu sur les archives de l'Académie des sciences, dans les années 1880, les archives de l'Académie des sciences est organisée de manière autonome par rapport aux archives de l'Institut.
Oui, puisque donc tous les papiers de l'Institut avaient été transférés sur le site du Collège des Quatre Nations, mais il avait été décidé dans un règlement intérieur de l'Institut en 1796 que les archives des différentes classes soient regroupées dans les papiers du secrétariat. Mais dès le départ, on dit qu'on fera d'abord qu'elles seront classées séparément. Donc d'abord la première classe, puis la deuxième classe. Et alors quand la bibliothèque de l'Institut est créée juste une année après, 1797, elle se voit attribuer le fonds de la bibliothèque de l'ancienne Académie royale des sciences. Et on n'a pas de renseignements vraiment sur cette gestion de papier. Apparemment, elle n'est pas très rigoureuse parce que de nos jours, on trouve encore des documents en vente, soit à l'hôtel Drouot, soit chez des libraires et marchands d'autographes. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des règlements qui confient au chef du secrétariat de l'Institut le soin de classer et les papiers, mais les archives de l'Académie des sciences sont toujours confondues avec celles de l'Institut, et ce, en effet, jusqu'à ce que Jean-Baptiste Dumas et Joseph Bertrand, les deux secrétaires perpétuels en fonction dans les années 1878-80, décident qu'on installe un service propre. Et alors, ils commandent même des meubles pour, d'une part, les papiers de Réaumur, qui comportent alors 6 cartons, les papiers d'Ampère, 33 cartons.
Ampère, oui, qui est un grand nom de l'Académie.
Oui, qui est parmi d'autres, parce qu'en fait, quand on consulte le répertoire biographique, on est quand même impressionné par tous les grands noms, les grandes personnalités, quelles que soient
l'époque. Ampère, Lavoisier.
Voilà, quel que soit le siècle. Mm-hmm. Au XVIIIe siècle, bien sûr, vous avez D'Alembert, Condorcet, Buffon, Lavoisier, Arago, Pasteur, Claude Bernard. Sans oublier au XXe siècle, on a Jean Perrin, Louis de Broglie, on a beaucoup de prix Nobel.
Bien sûr.
Kessler. Bon, je ne parle pas des contemporains pour ne pas...
Bien sûr, mais ouais. Autant de noms, en tout cas, sur lesquels maintenant, vous, aux archives de l'Académie des sciences, vous conservez donc des documents. Et je vous propose de marquer une courte pause, Florence Greff, et on se retrouve tout de suite après pour la suite de notre émission. À tout de suite.
La maladie d'Alzheimer est un domaine de la recherche qui est en friche. Il reste encore beaucoup à découvrir. Canal Académie vous propose un état des lieux avec professeur Jean-Jacques Auve, spécialiste du vieillissement du cerveau, et le docteur Jean Petitpré, qui est président de la Fondation France Alzheimer. Nous vous proposons également de découvrir cette association France Alzheimer qui œuvre à une meilleure prise en charge de la maladie et vient en aide aux familles. Ces deux émissions sont disponibles sur notre site.
Suite de notre émission Au fil des pages, en compagnie de Florence Greff, conservateur des archives de l'Académie des sciences. Florence Greff, nous nous sommes quittés sur l'histoire des archives de l'Académie des sciences, liée intimement à l'histoire même de l'Académie. Alors maintenant, venons-en un peu au concret. Que trouve-t-on exactement aux archives de l'Académie des sciences?
Je voudrais rappeler d'abord que le service est situé au 6e étage de l'aile Levaux.
Au 23 quai de Conti. Accessible à tous?
Non. Il faut plutôt avoir une certaine formation parce que...
Très pointu.
Il faut soit avoir déjà connaissance scientifique de l'époque et des mots employés quand on utilise des documents du 18e siècle, puisque les concepts n'étaient pas définis d'abord, et puis même les mesures n'étaient pas les mêmes, les concepts n'étaient pas définis comme de nos jours. Et puis
donc ce sont des chercheurs en fait qui viennent travailler
tout à fait.
Ici. Et alors sur quoi travaillent-ils alors?
Alors ils travaillent soit sur des domaines, chimie, botanique, ou soit sur des personnages ou un réseau de personnages qui ont animé, qui sont intéressés à une question. Alors nous conseillons toujours, ou à tout premier arrivant, de s'attaquer d'abord aux dossiers biographiques. Alors ces dossiers biographiques, ce ne sont pas des archives qui ont été créées à proprement parler en fonction de la mission de l'Académie. C'est une idée d'un archiviste et soutenue par un des secrétaires perpétuels, Alfred Lacroix, qui était très intéressé par toutes les questions historiques. Et donc l'idée, puisqu'ils avaient des courriers en demandant soit le cursus académique de tel personnage ou des renseignements d'état civil sur tel autre, ils ont eu l'idée de faire un dossier pour chacun des membres de l'Académie, quel que soit le titre auquel ils avaient appartenu à l'Académie, puisque je rappelle qu'il y avait différentes catégories. J'ai évoqué les 20 pensionnaires créés par le règlement de 1699 qui faisaient le travail proprement académique, mais à côté, il y avait 10 honoraires qui étaient des grands personnages ou des ministres qui apportaient le prestige de leur nom, ou de leur fonction à l'académie. Et sinon, leur étaient adjoints d'abord des élèves qui donc servaient d'aide aux pensionnaires, puis qui ont ensuite été nommés adjoints, et ceci pendant donc tout le XVIIIe siècle. Et il y avait également des correspondants. Alors au XVIIIe siècle, les correspondants ne sont pas correspondants en tant que tels, ils sont correspondants parce qu'ils sont attachés à un membre de l'Académie, et c'est à lui qu'ils écrivent, qu'ils font part de leurs observations, de leurs découvertes et du travail scientifique de leur région. Alors que, avec les règlements de l'Institut, les décrets de l'Institut, les correspondances appartiennent à la première classe de l'Institut, mais au début, ils ne doivent pas résider à Paris. Et c'est seulement au XXe siècle, en 1964, qu'on accorde que les correspondants peuvent résider. Enfin, ça, c'est une particularité de l'histoire de l'Académie.
En tout cas, vous conservez des dossiers biographiques. À partir de quel moment, en fait, dossiers biographiques se constituent?
Alors, ils concernent tous les gens qui ont appartenu depuis la création de l'Académie, 1666, jusqu'au XXe siècle. Alors, je dois préciser que maintenant, dès qu'un membre est élu, on demande à ce membre de nous fournir des renseignements sur le cursus de formation, sur les titres et travaux, et éventuellement de nourrir ce dossier par des souvenirs, des papiers qu'il juge importants, et même des photos qui permettent d'évoquer.
C'est devenu un automatisme lors de l'élection d'un membre ou d'un correspondant pour pouvoir mieux connaître ce membre en question. Aux archives de l'Académie des sciences, on trouve aussi des informations sur les activités des membres, les activités lors des séances. Donc ce sont des dossiers de séances avec les résumés, les lettres, les rapports, les procès-verbaux.
Oui, puisque depuis le début de la création de l'Académie des sciences, les séances donnent lieu à la rédaction de registres. Alors nous avons ces registres depuis 1666 et ils constituent une série continue, d'une part jusqu'en 1793, puis ils sont repris en 1795 et actuellement l'Académie crée des registres factices, je dirais, puisqu'ils sont d'abord tapés et saisis sur informatique, et on fait des sorties papier, et nous avons donc jusqu'à nos jours des registres. Ces registres, j'ai évoqué tout à l'heure le fait que le secrétaire perpétuel était chargé
de tenir à jour ce registre.
Et de faire le résumé de la séance. Et ces registres, en fait, ils sont recopiés à partir des notes cursives que fait le secrétaire perpétuel. Et ils sont d'ailleurs recopiés par des scribes. Et ce qui explique que quelquefois, il y a des... D'abord, ils sont recopiés avec un certain délai, souvent une ou deux années de...
Ah, le délai est long, deux années.
Oui. Et ce qui explique qu'il y a des trous dans la transcription, parce qu'il y a des mots que la personne chargée de recopier n'arrive pas à lire et ils n'ont jamais été comblés, si bien que les chercheurs peuvent demander, quand ils existent, le brouillon primitif. En fait, plus on remonte dans le temps, et moins on a ces résumés. C'est à partir du milieu du XVIIIe siècle qu'on a ces résumés. Alors, que contiennent les séances? D'une part, il y a toujours au début mention de tous les membres qui sont là. D'abord, les honoraires qui assistent.
Donc, toujours par ordre hiérarchique.
Par ordre hiérarchique, puis les pensionnaires, puis les élèves, puis adjoints. Et ensuite, on commence dans la foulée. Monsieur Intel a commencé sa lecture, son mémoire sur tel sujet.
Ces résumés de travaux, par exemple, est-ce que vous avez des grands noms que vous pourriez nous citer sur lesquels on peut trouver des informations?
Tous les académiciens sont appelés à parler, soit sur leurs propres travaux, soit le travail se fait aussi sous forme de commission. Quand le pouvoir ou l'académie elle-même reçoit des mémoires de savants ou de particuliers, elle a pour mission d'examiner ses travaux et de les valoriser, valider. Et donc, souvent sont nommés 2, 3 ou 5 commissaires sur un papier donné et avec un délai différent qui peut varier de 8 jours à 2 mois ou plus, il y a un rapport qui après conclut à la publication éventuellement ou pas du mémoire, ce qui me permet de dire que dès 1699, l'Académie a fait connaître ses travaux sous forme publiée. Elle publie une série qu'on appelle la série Histoire et Mémoire. C'est un ouvrage qui comprend deux parties. partie. La partie histoire au singulier est un résumé des principaux événements qui sont survenus dans l'année.
Dans le courant de l'année.
Et la partie mémoire avec un S présente une sélection de papiers, d'articles jugés dignes d'être publiés et d'être portés à la connaissance du plus grand nombre.
Et qui existent encore actuellement ?
Bien sûr, il y a beaucoup cette de bibliothèques qui ont cette série, cette collection. Mais on évoquera peut-être plus tard le rôle de la Bibliothèque nationale de France.
Oui,
qui a,
nous évoquerons la numérisation.
Voilà, de ces publications pour que les chercheurs en bénéficient.
Encore un autre élément que nous trouvons aux archives de l'Académie des sciences, ce sont les dossiers de séance.
Oui, alors ces dossiers de séance viennent en complément des registres de procès-verbaux, puisque ces dossiers sont aussi appelés pochettes de séance parce qu'ont été mis dans des grandes enveloppes tous les documents que l'Académie a reçus à des séances diverses. Et ces documents ont été soit lus, soit confié à des commissaires pour faire un rapport. Et donc, on trouve à la fois la correspondance reçue par l'Académie, les mémoires reçues et les rapports au sujet de ces mémoires. Alors, en fait, le premier tiers du XVIIIe siècle, disons que ces dossiers de séance sont plutôt annuels. Mm-hmm. Puis, petit à petit, ils deviennent mensuels. Ils sont vraiment répartis par séance, c'est-à-dire deux fois par semaine quand l'Académie se réunit, à partir de la deuxième partie du XVIIIe siècle. Et ça continue au XIXe et au XXe siècle de nos jours encore. On a encore ce genre d'archives. Alors, nous sommes en train de travailler sur une base de données, sur le contenu de ces documents. Mais pour le XVIIIe siècle, c'est une personne qui avait déjà fait un fichier manuel qui s'appelle Madame Gallo, avec un travail de bénédictin. Elle a fait une liste en faisant tous les renvois, tel rapport se renvoie à telle mémoire présentée telle date. Donc le chercheur a toutes les pistes. Plus elle indique aussi à l'endroit, la page où ça a été imprimé.
Un travail de souris.
Oui. Alors nous sommes en train de saisir ça sous forme de base de données et dans les années qui viennent, ça sera disponible pour les chercheurs. Mais enfin maintenant, ils peuvent déjà venir poser leurs questions.
Ils ont déjà quand même quelques informations.
Sur le contenu et les papiers qu'ils ont à leur disposition. Alors,
les prix ?
Oui, les prix. Alors, c'était pas une des missions premières de l'Académie des sciences de donner des prix, mais
ça a commencé dans les années 1720.
Le premier prix attribué a été donné en 1720 parce que l'Académie a reçu un legs d'un conseiller au Parlement, une somme importante. Ce conseiller s'appelait Rouillé de Mêlé et il demande à l'Académie de donner des prix alternativement en ce qui concerne l'art de la navigation et la mécanique céleste. Et donc, une année sur l'autre, l'Académie donne un sujet et elle détermine des lauréats, comme d'autres académies à l'époque d'ailleurs. Alors après, il y a d'autres bienfaiteurs qui ont fait des legs et l'Académie a été...
avait un capital qui pouvait redistribuer sous forme de prix.
Voilà, et ça a été comme une spirale. Et maintenant, de nos jours, l'Académie distribue toujours des prix très importants. Simplement, si vous voulez, au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, il y avait des sujets, tandis que maintenant, les prix, c'est plus en fonction des travaux ou des publications et des découvertes effectuées qu'en fonction d'un sujet avec un devoir à rédiger.
Des prix qui représentent quelle somme ?
Une somme énorme actuellement. Le montant global, c'est 800 000 euros actuellement. Donc,
voilà, redistribué sous forme de plusieurs prix. Donc,
hein. Bien sûr, oui, il y a des grands prix qui sont remis en séance solennelle, lors de la séance solennelle de novembre chaque année de l'Académie des sciences, puisque chacune des académies a des séances solennelles.
Alors, on marque une seconde pause, Florence Greff, et on se retrouve tout de suite après pour évoquer cette fois-ci les fonds scientifiques des archives de l'Académie des sciences. À tout de suite.
L'histoire des hommes, l'histoire des sociétés, l'histoire des mentalités, l'histoire des lieux, l'histoire des événements. C'est un jour dans l'histoire, en direct ou en médiathèque, sur Canal Académie.
Troisième partie de notre émission Au fil des pages sur les archives de l'Académie des sciences en compagnie du conservateur de ces archives, Florence Greff. Alors avec vous, Florence Greff, nous nous sommes quittés sur ce que nous pouvions trouver aux archives de l'Académie des sciences. On n'a pas évoqué tout. Qu'il y a beaucoup de choses.
Il y a beaucoup d'autres papiers, d'autres séries de documents, différentes commissions sur des sujets que l'Académie des sciences a examiné et travaillé. Et c'est pour cela que je renvoie au guide de recherche des archives, édité il y a 10 ans maintenant, mais qui est quand même valable pour la plupart des documents, édité sous la direction d'Éric Briand et de Christiane Demelner.
Les auditeurs retrouveront sur notre site internet les références de cet ouvrage. Et puis, vous vouliez peut-être dire 2 mots sur les fameux comptes rendus.
Oui, parce que j'ai évoqué tout à l'heure donc cette série des volumes Histoire et Mémoire qui permet d'avoir une évocation des travaux de l'Académie au XVIIIe siècle. Et Arago, François Arago, a eu une idée très opportune en 1835, à partir d'un legs ou des restes d'un legs qui avait été fait à l'Académie, de faire connaître immédiatement les travaux de l'Académie, donc les séances hebdomadaires qui se déroulaient, en faisant éditer toute chaque semaine les communications effectuées. Et ensuite, ces travaux s'étaient reliés de façon semestrielle. Donc, c'est les comptes rendus de l'Académie des sciences, qui est un périodique qui a perduré jusqu'à nos jours au XXe siècle. Sauf que, à partir de 1965, ce périodique a été subdivisé parce que on pouvait pas mélanger mathématiques, chimie.
Donc, on a fait
sciences de l'univers. On a fait donc des séries différentes. Et actuellement, il y a 7 titres de périodiques qui sont issus de ces comptes rendus. J'évoquerai peut-être plus tard la collaboration de la Bibliothèque nationale qui a numérisé ces publications depuis l'origine, 1835 jusqu'à 1935. En allant sur le site Gallica, tout chercheur a accès à ces pages et donc à ce travail des nombreux académiciens au 19e et au 20e siècle.
Alors, abordons maintenant, si vous le voulez bien, les fonds scientifiques qui sont disponibles aux archives de l'Académie des sciences. Alors, tout n'est pas aux archives de l'Académie des sciences,
oui,
mais
dirons.
Une partie.
Voilà.
Alors, quels sont les noms, par exemple ?
Les fonds scientifiques ne sont pas proprement parlés des archives issues du fonctionnement de l'Académie, mais il est arrivé que des papiers soient donnés à l'Académie, soit en vue d'une publication des travaux et de l'œuvre complète, des œuvres complètes d'un académicien donné, soit pour sauvegarder ces documents, ou même, il y a même de l'Académie, c'est même à même quelquefois acheter des fonds qui étaient complémentaires à son activité.
Il y a aussi la dation. Vous parlez de la dation.
Oui, la dation. Je vais vous parler hors micro de la dation. C'est une façon de régler les droits de succession. Les héritiers peuvent soit donner des œuvres d'art ou des documents d'archives qui sont irremplaçables, bien sûr. C'est arrivé, par exemple, pour les papiers de Louis de Broglie, le secrétaire perpétuel au XIXe siècle. Et c'est également arrivé pour un complément d'archives de Lavoisier. Alors, cette dation a eu lieu en 1991 et elle a complété les papiers que l'Académie des sciences avait conservés. L'Académie a environ 70 fonds qui intéressent toutes disciplines, la botanique, les mathématiques, la physique, mécanique. Ils sont listés dans le guide de recherche que j'ai évoqué, mais par rapport à ce guide de recherche, il y a certains fonds qui sont déclarés non classés, qui depuis ces 10 ans ont été classés et l'inventaire est disponible pour les chercheurs. Alors, il est difficile de privilégier telle personnalité. Disons qu'on a de très beaux fonds et qu'il serait dommage de ne pas évoquer. Pour le XVIIIe siècle, c'est le fonds d'Antoine Laurent Lavoisier. Alors disons, Lavoisier a été guillotiné parce qu'il était fermier général et comme ennemi de la Révolution, ayant été collecté des impôts sur le dos du peuple, etc. Donc, ses papiers, ses meubles et ses biens sont séquestrés. Or, sa veuve, dès 1795, demande à ce qu'on lui restitue ses biens et elle obtient d'ailleurs un décret de la
Convention.
Et petit à petit, elle arrive
à récupérer l'essentiel
des documents, les meubles.
Puisque Lavoisier, rappelons-le, est chimiste.
Était chimiste. Et elle meurt en 1836. Elle a une seule héritière, c'est la petite fille de son frère, Christian Pauls. Et cette petite fille est mariée à un certain Léon Bérard de Chazelle, qui met en ordre tous les papiers dont ils ont hérité. Et il a comme idée de publier les œuvres de Lavoisier parce qu'il a quand même conscience que Lavoisier a apporté énormément dans les découvertes du XVIIIe siècle, que ce soit par la connaissance de la composition de l'eau, de l'air, le rôle de l'oxygène dans la respiration ou dans la combustion. Donc il veut faire connaître une deuxième fois, puisque Lavoisier avait déjà édité de son vivant, donc les œuvres complètes. Et il rencontre dans son souhait Jean-Baptiste Dumas, qui alors enseignait au Collège de France et qui avait dit qu'il se donnait comme but, en effet, d'éditer ses œuvres de Lavoisier. Mais ce souhait date des années 1846, mais il faut attendre des années 1860 pour avoir les crédits pour mener à bien cette publication. Ceci dit, dès 1846, Léon de Chazelle donne à Jean-Baptiste Dumas les documents pour qu'il voie et organise cette publication. Et je dois dire qu'entre 1862 et 1868, paraissent quatre volumes, les quatre premiers volumes sur les œuvres de Lavoisier. Puis après, il y a des retards parce qu'il y a la guerre de 1870. Puis Jean-Baptiste Dumas meurt, donc tout reste en suspens. Et il faut attendre 1930. Excusez-moi, il faut que je revienne en arrière. Donc, dans les années 80. 1888 et la fin du 19e siècle, il y a deux académiciens sont chargés de poursuivre l'édition des œuvres de Lavoisier. D'abord Henri Debré, puis Édouard Grimaud. Et c'est Édouard Grimaud qui arrive à publier les volumes 5 et 6. Et malheureusement, il meurt en 1900 et tous les documents sont remis sans distinction aux héritiers de Chazelle, sans distinction de ce qui avait été donné à l'Académie et ce qui lui appartenait. Parce que parmi les papiers de Lavoisier, il y avait des correspondances qu'il avait reçues, ses notes manuscrites, mais des notes manuscrites qu'il avait faites pour l'Académie, sur des rapports, sur des mémoires, et aussi ses papiers en tant que trésorier, et puis les commissions auxquelles il avait appartenu. Donc, il n'y avait vraiment aucun partage. Et tout ça est donné en vrac aux héritiers Chazelle. Et il faut attendre le milieu du XXe siècle pour que quelqu'un de passionné, un ingénieur chimiste nommé René Frick, aborde la famille Chazelle pour dire « je voudrais éditer la correspondance de Lavoisier ».
C'est un grand fonds que vous possédez, Lavoisier. Hein. Oui. C'est un des grands fonds des archives de l'Académie des sciences. Vous citiez également un autre nom, Jean-Baptiste Dumas, qui lui aussi
est une grande personnalité au XIXe siècle. En tant qu'enseignant, il a enseigné la chimie au Collège de France, puis à la Sorbonne et dans d'autres institutions. Il a été élu à l'Académie des sciences. Il devient secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences en 1868 jusqu'à son décès en 1884. D'autre part, il a mené une carrière politique. Il a été ministre de l'Agriculture en 1850, puis membre du Conseil municipal de Paris en 1859 et sénateur également. Donc, tous ces titres, il avait reçu et produit différents documents. Et son petit-fils, le général Dumas, a l'heureuse idée de faire don à l'Académie de tout cet ensemble de documents. Il y a une trentaine à 40 cartons qui concernent non seulement toutes ses activités dans ses différentes institutions, enseignement, participation à la réforme de l'enseignement au XIXe siècle, toutes ces questions d'agriculture, de problèmes d'agriculture. Il a rencontré...
Il s'intéressait au phylloxéra.
Au phylloxéra et avant à la maladie des vers à soie. Il y a toute une histoire, puisque c'était toute l'économie du Midi qui était fondée sur l'élevage de ces vers à soie qui débouchaient sur des tissages. Il a d'ailleurs confié à son élève Pasteur le soin de déterminer la cause de cette maladie.
Et Pasteur, comme vous le disiez, hors micro, était au départ chimiste.
Élève de Dumas. Donc je disais qu'il avait donc dans ses documents aussi des documents qui concernent la gestion de la ville de Paris, les grandes questions qu'il a rencontrées en tant que sénateur. Tout ça, il existe un inventaire, toute personne intéressée peut venir au service des archives consulter. Et donc Dumas, en tant que secrétaire perpétuel, a aussi reçu une énorme correspondance. Et cette correspondance a été... Alors, je dirais, en tant qu'archiviste, malheureusement reclassé dans les dossiers biographiques que j'ai évoqués par les archivistes de l'époque, parce que maintenant, on ne distrait pas les fonds, on les maintient entiers. Mais alors, par exemple, il y a toute une correspondance de Pasteur entre 43 et 84 avec Dumas. Mais je dis Pasteur, mais tous les membres de l'Académie qui ont une correspondance soutenue, on a, grâce à ce don, on a cette correspondance dans les archives.
En fait, vous avez beaucoup de fonds sur les anciens secrétaires perpétuels.
Pas seulement, puisqu'on a aussi aussi, l'Académie a eu la chance d'acheter un fonds Maupertuis qui était en vente dans les années 1990 à Drouot. Alors Maupertuis est une grande figure du XVIIIe siècle puisqu'il a participé à la mesure du méridien terrestre et aux travaux sur la forme de la Terre, puisque en fonction des travaux de Newton, il y avait un débat
sur les pôles aplatis.
Les cartésiens, dont les Cassini, disant que la Terre avait une forme plutôt allongée, alors que les Newtoniens, en fonction de l'attraction terrestre, disaient la Terre est aplatie au pôle. Donc il y a eu deux expéditions, une commencée en 1735 au niveau de l'équateur, sous la direction de Louis Gaudin, avec Pierre Bouguer
et la Condamine,
qui ont donc mesuré le méridien au niveau de l'équateur. Mais cette expédition, étant donné la configuration géographique, a duré 10 ans parce que l'environnement était assez hostile et sauvage. Enfin, on s'aperçoit même quand on va de nos jours en Équateur, puisqu'ils ont mesuré le méridien entre Quito et Cuenca, qu'ils devaient faire ces mesures dans des régions montagneuses, volcaniques, extrêmement difficile. Et d'ailleurs, je renvoie à l'ouvrage de Florence Tristam sur ce voyage. Et bien sûr, les protagonistes ont fait des rapports à l'Académie. Pierre Bouguer a fait un rapport séparé parce qu'ils se sont disputés. Ça, c'est toute une longue histoire.
C'est une longue anecdote.
Et donc, la Condamine a fait son propre rapport édité quelques années après Pierre Bouguer. Mais enfin, tout ça, dans les séries des publications de l'Académie royale des sciences, on trouve. Et donc, Maupertuis, lui, une année après le départ de cette première expédition à l'Équateur, propose à l'Académie de faire la mesure de ce même méridien au pôle. Et comme la configuration est moins contraire, quoique le climat soit très très froid, il en aura des conséquences pour sa santé. Au bout d'un an, il revient, il est parti avec Clairaut et le Celsius et d'autres. Et au bout d'un an, il revient avec des calculs c'est le triomphe pour... Et donc, nous avons un fonds Maupertuis, alors qui a été inventorié, d'ailleurs, que les gens intéressés peuvent voir sur le site internet de l'Académie dans
des
le chapitre
sciences,
archives.
Ouais. Donc ce sont en fait des rapports, des notes que vous avez...
correspondances, mm-hmm. Des notes scientifiques et aussi tous les travaux, puisque Maupertuis n'a pas été un mathématicien, mais il ne s'est pas uniquement occupé de cette mesure, il a aussi travaillé dans d'autres domaines. Mais bien sûr, il faut tout de suite temporiser, tout n'est pas à l'Académie des sciences. Et il faut penser à d'autres institutions dans lesquelles les gens ont travaillé ou alors qui se sont trouvées héritières des papiers. Par exemple, la Bibliothèque nationale conserve beaucoup de documents du XVIIIe siècle parce que l'abbé Bignon qui présidait l'Académie des sciences, qui aussi dirigeait la Bibliothèque du Roi, entre autres, et aussi le Collège Royal, donc a laissé ses papiers à la Bibliothèque du Roi. Et on trouve donc des correspondances à cet abbé, à la Bibliothèque nationale. Et puis sinon, il y a eu des dons à la Bibliothèque nationale. Je dirais tous les papiers Pasteur ont été donnés par son petit-fils en 1964. On trouve aussi d'autres fonds. Donc il faut penser aussi bien à l'Observatoire de Paris. Par exemple, pour l'expédition à l'Équateur, on trouve le journal...
Avec Bouguer et qu'on a condamné.
On trouve le journal de bord. Donc c'est très attachant, le départ à partir de La Rochelle. On trouve une correspondance très conséquente. Donc il faut penser par exemple pour les gens qui ont travaillé sur la végétation à la bibliothèque du Muséum national d'histoire naturelle. Voilà.
Alors, peut-être un autre nom que nous pourrions évoquer rapidement, Réaumur,
oui,
qui, lui, avait travaillé sur le dictionnaire des arts et métiers.
Bon, Réaumur est plutôt connu parce qu'il a inventé le thermomètre, mais il s'est aussi rapidement passionné pour tout ce qui était l'entomologie. Donc, il s'est sur la description des insectes, il passe des années et il se fait des dessinateurs et il a publié donc beaucoup de mémoires sur les mœurs aussi des insectes, la façon dont ils vivent, leur description, la façon dont ils vivent, dont ils se développent. Et comme il avait légué ses papiers à l'Académie des sciences, nous avons en effet un fonds important Réaumur. Et actuellement, il y a un projet par Christine Blondel, qui travaille au Centre d'Histoire des Sciences et des Techniques à la Villette, qui a déjà créé un site internet Ampère d'électricité, qui présente surtout les œuvres publiées d'Ampère. Alors, Elle a aussi publié donc cette correspondance d'Ampère qui est éditée, mais comme malheureusement la personne chargée de l'édition n'avait pas indiqué où était conservée chaque lettre, comme on ferait actuellement, Elle a un projet de donc numériser cette correspondance, de l'éditer, de l'agrémenter d'explications, de notes.
Alors justement, venons-en à la numérisation et nous terminerons là-dessus notre émission. C'est que maintenant, ces notes, ces correspondances sont numérisées.
Oui, alors l'Académie, heureusement, est secondée par l'intérêt de chercheurs ou de centres de recherche pour mettre en valeur ces ressources documentaires. Je dirais à petit d'exemple, d'abord le site internet Panopticon Lavoisier, fait par Marco Beretta, un Italien, qui s'est passionné pour Lavoisier et qui présente non seulement tous les documents, que les documents se trouvent à l'Académie des sciences ou ailleurs, à Clermont-Ferrand ou à Saint-Pétersbourg ou bien à Cornell University, puisque les Américains ont eu l'opportunité d'acheter des documents qui étaient en vente dans les années 50.
Donc cette personne-là a tout réuni sur son site internet.
Les documents, mais aussi les instruments et aussi les représentations de Lavoisier. Alors ça, c'est pour Lavoisier, mais il y a d'autres sites, je dirais le site Ampère que je viens d'évoquer, mais qui donc existe déjà et qui va être complété de façon numérisée. Aussi, il y a un site fait par Pietro Corsi sur Lamarck, qui est donc une grande figure aussi pour l'explication de l'évolution. Bon, après, bien sûr, il y a Darwin qui a précisé, mais déjà en gestation, il y a la perception que tout n'est pas fini. Il y a des évolutions. Et puis, par exemple, l'année dernière, j'avais une personne qui éditait tous les écrits de Carl von Linné et qui a demandé à numériser nos documents. Et donc, nos documents seront numérisés, puis transcrits et bien sûr expliqués sur un site de Carl von Linné. Et elle a aussi demandé à la bibliothèque de l'Institut, qui a aussi des papiers, puisque quand le service s'est créé, la bibliothèque de l'Institut a gardé certains documents. Et il faut toujours penser, quand on cherche sur l'Académie des sciences, à aller dans d'autres endroits.
Et alors, tout au long de cette émission, vous nous parliez de la Bibliothèque nationale et le site internet Gallica qui s'occupe de numériser les comptes rendus de l'Académie des sciences, mais sur une période donnée.
Oui, des comptes rendus, mais aussi les publications du XVIIIe siècle, puisque Histoire et mémoire est disponible sur Gallica. C'est vraiment très, très facile. Il y a quelques années qui manquent, mais bon, on est en négociation pour compléter tout ce corpus disponible. Donc, ils ont aussi numérisé les comptes rendus. Et on est en pourparlers pour étendre la négociation et offrir aux chercheurs, d'une part, plus loin dans les années du XXe siècle, et d'autres volumes qui sont très intéressants et qui révèlent le travail de l'Académie, que ce soit les éloges des académiciens, ça c'est aussi une source importante, ou alors par exemple la série des machines où au XVIIIe siècle on présente et explique les machines, qu'il s'agisse d'horloges, d'appareils, de traits, toutes sortes d'artillerie aussi, de canons. Tout ce qui était présenté à l'Académie qu'elle avait mission d'examiner et d'agréer, et ce qui permettait après aux gens d'avoir un privilège du roi et de fabriquer leurs produits.
Donc tous ces documents maintenant sont disponibles sur Internet, plus forcément plus besoin forcément de se déplacer jusqu'à Paris, parce que Paris, bien sûr, est une belle ville, mais tout le monde n'habite pas Paris.
En tout cas, pour ce qui est publié. Parce qu'évidemment, nous avons toujours des lecteurs, même si leur nombre a diminué du fait de la numérisation, puisque nous ne pouvons envisager une numérisation totale de toutes les richesses de l'Académie des sciences.
Eh bien, merci Florence Greffe de nous avoir ainsi exposé tout ce que vous pouviez nous dire sur les archives de l'Académie des sciences. Malheureusement, on n'a pas pu tout dire. On a brossé un panorama assez large des archives. Nous renvoyons nos auditeurs au site internet de l'Académie des sciences. Et puis, bien sûr, nous renvoyons également nos auditeurs à la bibliographie que vous pouvez trouver, chers auditeurs, sur notre site internet. Merci de nous avoir suivis. Merci Florence Greffe.
Et merci.
À bientôt.
Au revoir.